Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet.
Bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai eu l'occasion l'an dernier de vous présenter des textes scolaires grecs du monastère d'Épiphane et je vous propose aujourd'hui de rester dans ce qu'on appelle la montagne thébaine. Hein, vous voyez pourquoi on l'appelle montagne thébaine, donc sur la rive ouest de Thèbes, en face de Louxor maintenant, qui est une zone probablement en Égypte, celle qui a laissé, disons, la plus importante documentation scolaire en langue copte. Alors, truffée d'ermitages et de monastères à une époque où l'enseignement est justement dispensé par des moines, surtout quand il s'agit du copte, eh bien, on ne s'étonnera pas qu'elle ait livré autant d'exercices scolaires. Les fouilles de ces dernières années n'ont fait évidemment qu'accroître cette documentation. Et c'est cette dernière que j'aimerais étudier avec vous aujourd'hui pour mieux comprendre comment s'organiser l'enseignement de l'écriture et de la langue copte. Alors avant de nous plonger dans les exercices scolaires, nous devons nous demander si d'autres types de témoignages écrits sont susceptibles de jeter quelques lumières sur l'enseignement primaire en copte. Je pense évidemment à des lettres ou des contrats relatifs à des cours de copte. Alors nous avions examiné l'an dernier, je ne sais pas si vous en souvenez, une lettre retrouvée au monastère d'Épiphane qui pourrait être le rapport d'un maître sur ses cours. Alors malgré les lacunes, cette lettre nous apprend que le destinataire de la lettre a demandé à un de ses amis vivant dans un monastère de s'occuper de la formation d'un garçon, peut-être un enfant de sa famille ou d'amis, à qui il accepte de rendre ce service. Mais nous avions vu que ces conclusions étaient rendues fragiles par l'état fragmentaire du texte. Il se trouve que deux textes sont beaucoup plus explicites et nous permettent de saisir une relation contractuelle entre un maître et le père d'un élève relative à un enseignement de la lecture et de l'écriture. Alors ces textes ont été récemment publiés et seront d'autant plus intéressants qu'ils sont très rares dans la documentation papyrologique. Il s'agit de deux ostracas thébains du 8e siècle, donnés par Jean-Jacques Ampère, le fils du célèbre physicien, lui-même fameux historien, qui fut, comme son père, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de littérature française. Alors, Jean-Jacques Ampère est parti en Égypte en 1844, où il visita tous les monuments jusqu'à la deuxième cataracte du Nil. Malheureusement, il fut victime d'une grave dysenterie, dont il mit d'ailleurs plus d'une année à se remettre. Et il doit revenir, rapportant avec lui des antiquités et de nombreux documents qui nourriront le voyage en Égypte et en Nubie qu'il publia à Paris en 1868. Alors les deux ostracas qui m'intéressent aujourd'hui comptent parmi les antiquités dont il fit don au cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale de France, hein, appelé aujourd'hui le département des médailles de la Bibliothèque nationale, le département des monnaies, médailles et antiques. Alors, ces deux textes ont été rapidement édités par Wilhelm Spiegelberg dans son compte-rendu des Coptic Ostraca de Krum en 1903, et ils ont été réédités avec un commentaire approfondi par Anne Boudor en 2016, hein, dont je reproduis ici l'édition. Alors, regardons-les de plus près. En voici la traduction, vous verrez qu'il y a un certain nombre d'obscurités que j'essaierai de résoudre ou d'éclairer plus tard. Moi, Pater Mouté, fils de Pétros, donc Pierre, je sais et je déclare par Dieu qu'Isaac, le prêtre, a promis à Féou un trimession. Un trimession, c'est un tiers de sous d'or. En disant, si tu apprends à mon fils à écrire et à lire, je te le donnerai. Ensuite, je déclare qu'il a appris à lire avant qu'il le prenne chez lui et qu'il a écrit de sa propre main. Moi, Pater Moutet, je certifie cette hypobolée, je reviendrai sur le sens de ce mot. Et ensuite, quelqu'un d'autre a rajouté, moi, Aaron, fils d'Isaac, qui l'envoyait chercher, j'ai rédigé ce tesson et je suis témoin. Passons au deuxième texte. Moi, Sansno, le fils du prêtre Daniel, moine, je déclare que je suis témoin qu'Isaac, le prêtre, a promis à Féou le Sarro. Alors là, on a un mot très difficile à traduire, hein, qui correspond à une fonction assez vague sur laquelle Anne Boudor avait eu l'occasion de nous entretenir dans un séminaire, dans une séance de mon séminaire l'an dernier. Entre autres traductions possibles, on pourrait utiliser le terme français d'assistant. Donc, je suis témoin qu'Isaac le prêtre a promis à Féou le Sarro un trimétion en disant « Si tu apprends à mon fils à écrire et à lire, je te le donnerai » et aussi qu'il a appris à lire avant qu'il le prenne chez lui. « Moi, Sansno, je certifie cette hypobolée. » Alors, le mot « hypobolée », qui est un mot grec, hein, doit signifier ici « déclaration ». Dans les papyrus grecs de l'époque byzantine, il prend le sens de « dénonciation », mais une dénonciation, ce n'est ni plus ni moins qu'une espèce de déclaration d'un dommage subi. Alors, deux personnes, hein, Pater Moutet et Sansno, apportent, comme vous le voyez, leur témoignage sur le fait qu'Isaac a engagé Féou pour apprendre à écrire et à lire à son fils. Il semble donc y avoir eu un accord au terme duquel Féou s'est engagé à enseigner au fils d'Isaac la lecture et l'écriture. Évidemment, la lecture et l'écriture du copte, hein, eu égard à la langue qui est utilisée dans ces deux textes. Alors, si Pater Moutet et Sansno apportent leur témoignage, c'est qu'il y a manifestement un litige. Ce litige n'est pas très clair du fait de la difficulté de savoir à qui les pronoms personnels qui sont utilisés dans ce texte se rapportent. Alors, plusieurs interprétations sont possibles. Commençons par une interprétation. Alors, je vais prendre le deuxième texte. Moi, Sansno, le fils du prêtre Daniel, moine, je déclare que je suis témoin qu'Isaac, le prêtre, a promis à Féou le Sarro un trimétion en disant « Si tu apprends à mon fils à écrire à lire, je te le donnerai » et aussi, et là je vais remplacer les pronoms par des noms qui soient plus clairs, « et aussi que le fils a appris à lire avant que le maître le prenne chez lui. Moi, Sansno, je certifie cette hypobolée. » Donc, alors, dans ce cas de figure, le fils d'Isaac aurait appris à lire et à écrire avant de commencer les cours avec Féou. Peut-être parce que le père avait trouvé un maître moins cher ailleurs, on ne sait pas. Il en résulterait en tout cas que le père cherche ainsi à rompre l'accord et de ne pas payer à Féou le salaire sur lequel il s'était accordé. Nous voilà dans une situation qui est évoquée, par exemple, par le célèbre rhéteur Libanios, hein, au IVe siècle, hein, qui était aussi un grand professeur de rhétorique, qui avait beaucoup d'élèves, et qui se plaint fréquemment des parents qui ne veulent pas payer son salaire ou qui cherchent tous les prétextes pour le réduire. Mais apprendre à lire et à écrire est un processus qui prend du temps. Et il serait étonnant que le fils d'Isaac ait pu acquérir ses compétences en si peu de temps et qu'il n'ait plus besoin des cours de Féou au moment où celui-ci devait commencer son enseignement. Du coup, on peut être amené à proposer une autre interprétation. Alors, je reprends le deuxième texte. « Moi, Sansno, le fils du prêtre Daniel Moine, je déclare que je suis témoin qu'Isaac, le prêtre, a promis à Féou le Sarro un trimétion en disant « Si tu apprends mon fils à écrire et à lire, je te le donnerai et aussi que le fils, donc je suis témoin que le fils a appris à lire avant que le père ne le reprenne chez lui. Moi, Sansno, je certifie cette hypobolée. » Et dans ce cas-là, eh bien, le litige viendrait de ce que l'enfant aurait appris à lire et à écrire plus vite que prévu et que le père, récupérant l'enfant, aurait souhaité réduire en conséquence le salaire. Cela devait constituer une violation de l'accord, car nous savons par d'autres contrats d'apprentissage livrés par la documentation papyrologique que si la période de formation se termine plus tôt, eh bien, le salaire n'en devait pas moins être versé intégralement à ce moment-là. Voici certaines clauses d'un contrat d'apprentissage de la tachygraphie, de la scénographie. Hein. Cet apprentissage est prévu pour une période de 2 ans, jours de fête non compris, à compter du présent mois de Famenno, de la 18e année du règne de notre Seigneur Antonin César, et au tarif de 120 drachmes d'argent dont nous sommes convenus. De cette somme, tu as reçu le premier versement de 40 drachmes, le deuxième versement de 40 drachmes te sera versé lorsque le garçon aura assimilé le contenu de l'ensemble du manuel de tachygraphie. Le troisième versement de 40 drachmes restantes te sera versé à la fin de la période où le garçon écrira et lira sans faute tous les types de prose. Si tu achèves sa formation dans ce délai, je n'attendrai pas la fin de l'apprentissage prévu pour te payer toute la somme. Quoi qu'il en soit, alors on peut hésiter entre les deux interprétations, quoi qu'il en soit, Féou s'estime lésé et en vue d'une action en justice ou plus probablement d'un arbitrage privé, eh bien, il a suscité la déclaration de nos deux témoins. Il se trouve que après le deuxième texte, eh bien, il y a un texte ici, vous ne le voyez peut-être pas, ou peut-être que vous devinez des ombres, des traces de lettres, il y a effectivement un deuxième texte très très effacé. Et ce deuxième texte nous apprend que Féou a mandé un diacre auprès d'Isaac pour lui demander de revenir sur sa décision de ne pas le payer ou de ne pas lui payer la somme initialement prévue. Alors, je vous lis le texte. Moi, le nom est complètement effacé. Le diacre, j'atteste que Féou m'a envoyé à toi quand tu as changé d'avis pour dire « et l'obligeance » de me payer mon salaire. Alors, grâce au différend qui surgit entre Isaac et Féou, eh bien, nous avons le seul témoignage d'une relation contractuelle concernant un enseignement du premier degré en copte entre un maître et le parent de son futur élève. Alors, au-delà de la contestation, finalement, très anecdotique, ces deux ostracas nous apportent des informations de premier ordre. Alors, tout d'abord, nous constatons, comme nous l'avions vu il y a 2 ans pour l'enseignement grec, nous constatons que les parents sont amenés à se tourner vers des précepteurs, le mot grec est kataghetes, des précepteurs privés qu'ils engagent contre rémunération. Alors ici, cette rémunération est d'un tiers de sous. Alors comment, évidemment, évaluer cette somme en termes de pouvoir d'achat ? Elle équivaut au prix d'un livre non relié. On a des documents qui attestent du prix des livres. Et un livre non relié fait à peu près aussi un tiers de sous d'or, de solidus. Ce qui, vu le prix des livres à l'époque, n'est pas peu. Alors Roger Bagnall, qui s'est intéressé justement au premier livre chrétien il y a quelques années, a avancé la comparaison suivante. Un tiers de sous équivaudrait à 1 000 dollars pour quelqu'un qui en gagnerait 35 000 par an. Alors, on peut dire aussi qu'un tiers de sous correspond à la totalité de l'impôt par tête que payaient les gens à la même époque. Alors, il est vrai que nous ne connaissons pas la durée de l'enseignement que Féou dispense au fils d'Isaac, mais il est probable qu'elle n'ait pas excédé un an. Enfin, vous voyez que c'est quand même pas une petite somme. Alors, une autre information livrée par ces deux ostracas, cette fois-ci sur le contenu même de l'enseignement et la façon dont il s'organisait, cette information se décèle dans une expression qui est utilisée dans ces deux textes. Il y est question d'apprendre à écrire et à lire. Alors, en copte, esraï et hoche. À écrire et à lire, et non pas à lire et à écrire. L'ordre des mots n'est pas dû au hasard. Non seulement on les retrouve dans d'autres textes grecs, comme s'il s'agissait d'un syntagme canonique, comme en français on dit lire et écrire, on ne dit jamais écrire et lire, mais surtout il correspond à une réalité de la pédagogie antique dont j'avais eu l'occasion de vous entretenir il y a 2 ans. Les exercices pour apprendre à écrire semblent en effet avoir précédé le stade d'initiation à la lecture qui se faisait par la méthode syllabique. J'aurai l'occasion d'y revenir. C'est même un phénomène, semble-t-il, qui se renforce à l'époque byzantine. Alors voilà qui explique qu'on ait pu donner à écrire à de jeunes élèves des textes aussi compliqués qu'Homère. Vous en avez un exemple ici, un exemple de l'Odyssée, hein, écrit dans une écriture qui ne laisse pas de doute sur le fait qu'on ait affaire à un élève qui vraiment commence à écrire. Homère, qu'ils étaient évidemment ces élèves débutants très loin de pouvoir lire et comprendre. Ah, évidemment, tout cela peut choquer nos conceptions pédagogiques modernes. Mais je vous avais dit que cet ordre était pour une part justifié par le système graphique en vigueur à l'époque, celui de ce qu'on appelle la scriptio continua, l'écriture continue, autrement dit, l'écriture sans espace entre les mots et sans ponctuation entre les phrases. Cela empêche essayez de lire un texte sans majuscule, sans espace, sans ponctuation, vous verrez que ce n'est pas si simple. Et cela empêche de pouvoir identifier les mots d'un seul regard et, avant d'avoir reçu une formation suffisante en grammaire et en littérature, de pouvoir naviguer dans le texte. D'où l'importance de ce que les Grecs appellent l'anagnosis, c'est-à-dire la lecture à haute voix pour apprendre à lire. L'obstacle de l'écriture continue, insurmontable pour un débutant, repousse nécessairement le moment où la lecture peut être abordée et l'oblige à passer plus de temps à essayer de maîtriser l'écriture à partir de modèles écrits, recopiés lettre par lettre. D'autant que s'il s'arrête tôt dans ses études, comme ça devait être le cas de la majorité des élèves, eh bien là, la maîtrise de l'écriture est la compétence minimale qui lui sera demandé, hein, celle de pouvoir écrire, par exemple, son nom, voire recopier des formules très courtes, notamment pour souscrire des actes juridiques ou administratifs, comme le fait sur ce papyrus, pour s'entraîner, le secrétaire de village, le comogrammateus, Pétaos, qui est passé à la postérité chez les papyrologues sous le nom du scribe qui ne savait pas écrire. Comme vous le voyez, il a répété son nom une dizaine de fois dans des lettres tout à fait maladroites, en oubliant d'autres lettres, etc. Et on voit qu'on a affaire à quelqu'un qui domine quasiment pas l'écriture et pourtant il est officiellement scribe de son village. Alors les ostracas que je viens de vous montrer sont des cas à part. Nous n'avons pas d'autres documents qui nous permettent de documenter précisément un enseignement de copte, à l'exception des exercices scolaires eux-mêmes. Exercices qui, s'ils nous montrent des élèves en train de peiner ou des maîtres en train de rédiger des modèles, ont cependant l'inconvénient de ne pas nous livrer de données historiques sur l'identité, sur le profil des uns et des autres. Leur nom, leur âge, leur milieu, voire parfois leur langue native. Tout cela, ce sont des informations que ce type de documentation ne donne pas immédiatement. Il faut donc analyser ces textes de près, les mettre en série pour les faire parler. Pour ce faire, j'ai choisi de vous emmener dans un autre monastère. Le monastère de Der el-Bachit. Der el-Bachit, ou comme l'écrivent les Allemands qui ont fouillé ce monastère, Bachit, mot qui dérive peut-être du copte Bachet, qui veut dire le nord, ou de l'arabe Bachit, qui veut dire la chance. Ce monastère était appelé dans l'Antiquité le monastère de Saint-Paul. Il est sur la rive ouest de Thèbes, près du monastère d'Épiphane et du grand Foyuamont, dont j'ai eu l'occasion de vous parler l'an dernier. Alors, ce monastère est de type cénobitique, du fait de sa taille. C'est un des plus grands la région. Vous voyez un plan qui a été dressé il y a quelques années par les archéologues allemands. Et ici, voilà une vue de cellules avec des lits qui sont aménagés contre les murs. Et surtout, le réfectoire, qui est une preuve de la nature cénobitique de ce monastère, Vous voyez ici les sièges en cercle dans ce réfectoire. Voilà une vue plus générale. Et ce monastère a fonctionné entre le 6e et le 8e siècle. Alors, il a été fouillé entre 1993 et 2020 par l'Institut allemand d'archéologie du Caire, le DAIK, qui a exhumé un nombre très important d'ostraca, plus de 1000. Ces ostraca ont été édités par Susanna Hodak, alors uniquement en ligne, sur un site appelé Coptu, Coptische Ostraca Online. Alors c'est un avantage de pouvoir disposer gratuitement de ce travail et de bonnes images, mais l'inconvénient est qu'il est difficile d'avoir une idée d'ensemble de cette volumineuse documentation en l'absence de toute synthèse justement des données livrées par ces textes. Synthèse du type par exemple de celle donnée dans le premier volume du Monastery of Epiphanius at Thebes par Winlock et Crum, qui est un ouvrage de référence et vers lequel on continue à se tourner. Alors, les quelques articles qui ont été publiés sur ces ostraca d'El Khelbarit, dont vous avez quelques exemples à l'écran, ne pallient pas complètement ces lacunes. Alors, ces ostraca se répartissent en deux ensembles, ceux que les fouilleurs appellent les O-Bahrit ou Bahrit, qui ont été retrouvés dans le monastère lui-même, sur le sommet de la colline Drabul Naga, et un autre ensemble appelé O-Dan Copt, hein, Dan pour Drabul al-Naga, qui ont été retrouvés dans les annexes du monastère principal, donc du Deir el-Bahrit, installé en contrebas du monastère dans la double tombe pharaonique K93 11 et 12. La phase de construction initiale de la tombe peut être datée du tout début de la 18e dynastie du règne d'Amenhotep Ier, et à la fin de la 20e dynastie, la tombe a été remployée et partiellement reconfigurée par le grand prêtre d'Amon, Ramsès Nart. Et plus tard encore, au cours de la 22e et 26e dynastie, les deux cours extérieurs de la tombe ont été réutilisés comme lieu de sépulture. Et lorsque le secteur fut occupé par les moines, en liaison avec le monastère principal plus haut, et bien divers aménagements ont été réalisés à l'intérieur des deux cours de la tombe, et notamment, ils y ont installé des fours. Alors, sur les 1000 ostraca retrouvés, plus de 150 sont d'une façon ou d'une autre liée à l'enseignement, ce qui constitue évidemment un pourcentage important. Et cela a conduit les fouilleurs à conclure qu'une école avait été installée dans l'annexe du monastère, peut-être dans une des cours extérieures de la tombe de Ramsès Nart. Cela fait penser peut-être, si vous vous souvenez, à la situation qui prévalait au monastère d'Épiphane, où les documents scolaires ont été retrouvés dans la cellule A et la cellule B, construite elle aussi en réutilisant deux tombes pharaoniques, à proximité du monastère, ou de la laure. Alors, a-t-on cherché à éloigner des bâtiments principaux les classes qui, on l'a vu, pouvaient troubler, enfin les cours qui pouvaient troubler la tranquillité, le recueillement nécessaire à la vie monastique? C'est une possibilité. Mais, malgré tout, on peut aussi contester l'idée que l'enseignement n'a eu lieu que dans cette annexe du monastère. Je constate en effet que dans le monastère lui-même ont été retrouvés une centaine de textes scolaires, ce qui est finalement un nombre plus élevé que ceux qui ont été trouvés dans l'annexe. Donc on pourrait imaginer, on pourrait en conclure qu'il y a eu un enseignement dans les deux endroits, dans le monastère lui-même et dans son annexe. Quoi qu'il en soit, c'est la plus volumineuse documentation scolaire trouvée sur la rive ouest de Thèbes, ce qui s'explique évidemment par le fait que c'est le monastère le plus important en volume de la région. Alors examinons cette documentation scolaire. Pour cela, je vous propose de commencer avec un dossier d'une cinquantaine de textes considérés comme formant des archives, hein, c'est-à-dire un groupe cohérent constitué à époque ancienne. Constituée comme formant des archives par l'éditrice elle-même, hein, Susanna Hodak, ayant pour protagoniste un certain Chénétome. Alors Chénétome, c'est un nom égyptien qui est typique de cette région, puisqu'il y a eu un martyr à Louxor qui portait ce nom, et il y a eu donc, à la suite de son martyr, une mode pour ce nom de Chénétome. Alors, le protagoniste, je vous dis, de ces ostracas serait un certain Chénétome qui aurait suivi un enseignement élémentaire dans une des cours de l'annexe du monastère. Il nous a laissé deux textes qui permettent de l'identifier en tant qu'élève, qui constituent, je trouve, des témoignages, vous verrez, assez émouvants de sa scolarité. Alors, le premier, je vous donne la traduction, « Moi, Chénétome, c'est moi qui écris de ma propre main, comme tu m'as dit de faire. » Alors là, il y a quelque chose qui est assez embêtant à traduire en copte. « J'ai fait ta joie en toute chose. » Ou alors, on pourrait comprendre aussi, hein, « C'est moi qui écris de ma propre main. » À savoir, « comme tu m'as dit de le faire, à savoir de faire ce que je pouvais. » Donc, c'est un petit peu embêtant de ne pas pouvoir choisir entre les deux interprétations. Et puis ensuite, il continue, et la bonté de m'envoyer l'oreiller. Bon. Et puis ensuite, vous voyez qu'il y a des essais d'écriture. Il a écrit ici des alphas, bon, ici des croix. Bon. Les premières lignes seraient, selon l'éditrice Susanna Hodak, constituera un début de lettre. Mais, moi, Chénétome, hein, c'est moi qui écris de ma propre main, ce type de formule apparaît dans des contrats, mais il n'est pas vraiment caractéristique de lettre. Cette introduction semble plutôt faire référence à un exercice d'écriture que le maître demande à Chénétome de faire, et l'expression « de ma propre main » pourrait insister sur le fait que c'est l'élève qui doit écrire, et peut-être trahit aussi sa fierté d'avoir réussi à écrire lui-même. Et pourtant, il n'y a vraiment pas de quoi être fier, comme vous allez le voir. Le texte est écrit dans une écriture extrêmement maladroite et il est truffé d'erreurs. Vous avez, par exemple, le mot « esraï » qui veut dire « écrire » qui est écrit « star ». Mais vous avez pire. Et c'est ce qui fait la singularité de cet ostracone. Une bonne partie des lettres sont mal orientées. Alors, je les ai mises toutes en rouge. Alors, vous avez des lettres qui sont en miroir. Par exemple, ici, vous avez un rho en miroir. Vous avez des lettres qui sont pivotées à 90 degrés. Ici, le oméga, ensuite le chai. Vous avez des lettres qui sont carrément à 180 degrés, c'est-à-dire tête bêche. Ici, le janja. Vous avez des lettres qui sont enfin tête bêche et en même temps en miroir, comme ce kima. Donc vous voyez que c'est une situation complètement chaotique. Ça explique peut-être aussi le fait que dans la base de données, la photo ait été mise à l'envers. Je l'ai remise à l'endroit, mais vous voyez qu'il y a encore la légende qui est à l'envers. Le chaos le plus total, disais-je, il est rare de voir autant de fautes commises sur le positionnement des lettres, et on se demande si Chénétome a commencé son apprentissage des lettres ou s'il est complètement dyslexique. Mais il est possible, et cela rend le texte émouvant, comme je disais, que l'on est là un des premiers essais d'écriture de notre élève au tout début de sa scolarisation. On notera qu'après l'introduction, où il fait allusion à son devoir avec une autosatisfaction dont nous avons vu qu'elle était peut-être un peu prématurée, il enchaîne à partir de la ligne 7 sur une formule typique de lettres et la bonté de m'envoyer l'oreiller. C'est effectivement quelque chose qu'on retrouve très souvent dans les lettres, Arite Agapé, la bonté de, etc., et de m'envoyer. Souvent, la personne demande que son correspondant lui envoie des produits ou des objets. Et puis, voyez qu'ensuite, notre élève achève l'exercice avec des essais de lettres séparées. Alors, lettres, j'emploie le terme de lettres, il est un peu ambigu parce que ça signifie à la fois lettre alpha, bêta, gamma ou lettre, c'est-à-dire une missive, et je vais être obligé d'employer les deux lettres, j'essaierai d'être le moins ambigu possible. Vous voyez qu'ensuite, eh bien, notre écolier a fait des essais d'écriture de lettres séparées, par exemple, derrière, vous avez deux alpha qu'il a essayé d'écrire. Alors, voyez, les trois composantes pédagogiques de ce texte, essai de lettres isolées, exercice de formule épistolaire et formule où l'élève parle de son travail, eh bien, ces trois composants se retrouvent ailleurs dans le dossier d'Ostraca attribué à Chaineton. Justement, c'est le cas dans le second texte que je vous propose de regarder. C'est un ostracone, cette fois-ci, en calcaire, que l'éditrice attribue aussi à la main de Chaineton, et où ce dernier parle là encore de son devoir sur la face A, à pas Chaineton, ceci est mon petit travail manuel. Alors, travail manuel en français, ça renvoie à autre chose, le copte dit le travail de ma main, c'est-à-dire le fait d'écrire. Et puis, vous avez sur la face B, à pas Chaineton, ceci est mon petit travail manuel, donc il répète, que j'ai fait cette année. Alors, on peut hésiter sur le fait que cet ostracone soit de la même personne que le précédent. D'abord, si le nom qu'il introduit est le même, hein, Chaineton, eh bien vous voyez que ici, il est préfixé du titre APA, qui normalement est donné entre autres au supérieur de monastère. Cela veut-il dire que l'élève, en fait, ici, est un adulte qui a une position importante dans le monastère, ou bien que notre Chaineton s'est amusé à se doter du titre. Par ailleurs, l'écriture semble différente, hein, même si on a affaire à un autre type de support qui peut expliquer différence d'écriture. Ici, les lettres, sans être très à droite, sont tracées avec beaucoup plus de soin que dans le texte que je vous ai montré précédemment. Elles sont toutes à l'endroit, pas tout à fait toutes, puisque vous voyez que là, il y a un Janja qui balance. Et même ici, j'ai l'impression. Alors, l'éditrice Susanna Hodak avait lu Chaineton et puis deux marques d'abréviation. Je ne pense pas que ce soit des marques d'abréviation. Je pense que c'est un oméga qui est ici tout simplement à 90 degrés et ici un mu. Mais si cet exercice était plus récent que le précédent, eh bien, il n'est pas impossible qu'il soit dû au même Chaineton. Entre-temps, il aura appris la forme des lettres et ce sera fait une écriture. Cela ne l'empêche pas de continuer à s'exercer à écrire certaines lettres qui lui posent problème. Comme dans le premier ostracone, le texte principal est accompagné d'essais de calame par lesquels l'élève s'exerce plusieurs fois à écrire la même lettre. En l'occurrence, dans le premier ostracone, vous vous souvenez, il s'agissait du alpha. Et ici, eh bien, c'est la lettre Kima, hein, qui répète ici plusieurs fois sur le côté. Là, il entoure complètement son texte d'écriture de cette lettre. Si les deux ostracas sont dus à la même personne, comme le pense leur éditrice, eh bien, nous aurions là un cas unique nous permettant de voir l'évolution de la même personne au début à la fin de son apprentissage, enfin à la fin, disons, postérieurement à l'apprentissage des lettres de l'alphabet. Ce dossier est d'autant plus instructif qu'il ne se réduit pas à ces deux textes, mais comme je l'ai dit, il contient plus d'une cinquantaine d'ostraca, dont 21 sont considérés par Susanna Hodak comme assurément de la main de Chaineton. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en dehors des essais d'écriture et de lettres isolées, eh bien, ces pièces montrent que Chaineton s'est exercé presque exclusivement en écrivant des fragments de lettres. Et là, je prends le mot « lettre » dans le sens de missive. Autrement dit, qu'il a appris à lire et à écrire en copiant ou en rédigeant des lettres. Alors, je vais vous en donner juste deux exemples, les mieux conservés. Ici, moi, Chaineton, j'écris à mon père sévère, c'est Weiros, comme Dieu en toute chose, et on n'a plus pas la fin du texte. Alors, vous noterez peut-être la forme assez étrange de la lettre copte Ori, qui est identique à celle du premier texte, vous voyez, et aussi celle du second, celui sur l'ostracone calcaire que je viens de vous montrer. Ce qui inciterait à relativiser les doutes qu'on pourrait avoir sur l'homogénéité de ce dossier. Alors voilà un deuxième exemple de lettre de la Mönchengladbach. Hein. Avant toute chose, nous te saluons vivement et l'amabilité de venir trouver. Bon. Et puis sur la face concave du texte, on a Chénétome, le pêcheur. Alors là aussi, la lettre qui est copiée par Chénétome, vous voyez, est un exercice, hein, le prescrit, c'est-à-dire le début de la lettre où on dit un tel écrit un tel, est absent. Alors l'éditrice émet l'hypothèse que le nom de Chénétome sur le verso serait justement fait office de prescrit, mais en fait ce n'est pas la règle. De plus, que Chénétome soit le rédacteur de la lettre va à l'encontre de la première personne du pluriel que l'on trouve à la ligne 3, « Nous te saluons ». On a donc un exercice dans lequel Chénétome a copié ou rédigé des fragments de lettres. Et il a écrit dans un second temps, sur l'autre face de l'ostracone, son nom. Alors, je m'arrêterai là sur le dossier de Chénétome. Comme vous voyez, son intérêt est double. Il nous montre les tout débuts de l'apprentissage de l'écriture d'un individu qu'on aura rarement saisi de façon aussi lumineusement suggestive, avec peut-être, vous avez vu, ses progrès. Il montre surtout que cet apprentissage s'est fait exclusivement à partir non de textes littéraires, qu'ils soient profanes ou bibliques, mais de textes épistolaires et des lettres de la vie de tous les jours. La prégnance du genre épistolaire dans l'enseignement copte, aussi bien pour les exercices de copie que de composition, est illustrée par d'autres ostracas de ce même monastère, du monastère de Deir el-Bahrit. Je vous en montre juste les exemples les mieux conservés. Par exemple, là, vous avez un début de lettre, avant toute chose. C'est le tout début d'une lettre. Hein. Les lettres en copte, ça commence quasiment toujours par « avant toute chose ». Avant toute chose, je te salue, j'espère que tu es en bonne santé, etc. Puis après, on passe au sujet de la lettre. Et puis, vous voyez que ça s'arrête tout de suite. Toi, concentre-toi en toute chose. Travaille dur en toute chose. Travaille dur en toute chose. Vous voyez qu'on a effectivement ici un exercice qui est suivi par des sentences qui pourraient d'ailleurs très bien s'adresser à des élèves. Ça pourrait très bien être la voix du maître qui dit à ses élèves « Concentre-toi en toute chose, travaille dur en toute chose ». Et ce « travaille dur en toute chose », d'ailleurs, rappelle une prescription que l'on trouve dans beaucoup de documents scolaires grecs qui est « philoponei », hein, qui veut dire à peu près la même chose, « aime l'effort, travaille dur », etc. Et donc, on a ici un parallélisme avec la documentation grecque, et je vous ai mis pour l'illustrer un petit ostracone en albâtre qui vient de Périgueux et qui porte une sentence de Ménandre, et dessous, eh bien, le maître, ça devait être une espèce d'exercice à recopier, le maître a écrit « philoponei »,« travaille dur »,« aime l'effort ». Autre exemple de lettre de Deir el-Bahrit, hein, nous te saluons vivement. Et alors là, pareil, nous te saluons vivement, c'est une expression épistolaire. Et puis après, on passe à autre chose. À cause de Dieu, cache-toi ou couvre-toi, aie peur devant les hommes. Là, on a des maximes. Ici, on a vraiment le tout début d'une lettre, très mal écrite, hein, Khatemen. Et on attend quelque chose comme Rob ou Peshadje. Avant toute chose. C'est toujours ce début des lettres en copte. Là, ici, vous avez une formule de salutation épistolaire sans rien d'autre dans une écriture de débutant. Et je salue ma chère mère et tous mes frères. Moi, on attend le nom propre, mais il n'y a rien après. Bon. Et puis, je termine avec cette lettre, en fait, qui est une série de noms. Hein. Moi, Pacom, et puis vous avez moi avec Petros, etc., Démétrios, Daniel, etc. Donc, que des noms. Et puis, brutalement, on a la formule de conclusion d'une lettre typique en copte qui est « Je te salue dans le Seigneur, Ruchai Rempejoes ». Bon. En revanche, les textes non documentaires, c'est-à-dire des textes littéraires qui auraient servi d'exercice d'écriture ou de lecture, eh bien, sont rarissimes dans le monastère de Deir el-Bahrit. On en a peut-être deux. Et encore, il n'est pas sûr qu'il soit complètement scolaire. Celui-ci, qui est une citation de Jean Chrysostome. Hein, voyez Jean de Constantinople, c'est-à-dire c'est le célèbre Jean Chrysostome, et vous avez une citation qui est une citation très misogyne. Il est question de chasser les femmes quand elles commettent l'adultère. Bon. Mais est-ce un texte scolaire? C'est pas sûr. Et vous avez un deuxième texte, alors là, qui a plus de chances d'être scolaire. Il s'agit d'une série de versets de psaumes différents. Vous avez le psaume 70, 35, 44, 18, 44, 150, 171. Mais on a choisi juste des versets où il y avait le mot « dikaiosune », c'est-à-dire « justice ». Donc vous voyez que là, on a très certainement un exercice scolaire qui passe à travers la fréquentation des psaumes. Là, vous voyez donc que la valeur pédagogique dont l'enseignement copte a investi la lettre est un trait absolument évident dans le groupe des ostracas de Deir el-Baharit, et plus généralement, il est capital. Je crois qu'on ne saurait trop insister sur cette place centrale de l'épistolographie dans l'exercice, dans la formation scolaire des Coptes à cette époque. Mais est-ce à dire que l'apprentissage de l'écriture et de la lecture ne passait pas par des exercices plus classiques tels qu'ils avaient cours dans l'enseignement grec, c'est-à-dire copie de l'alphabet, liste de mots, syllabes, etc., copie de textes choisis? Eh bien, en fait, non. Il ne faudrait pas le croire. Les ostracas de Deir el-Baharit nous livrent aussi un certain nombre de textes qui, vous verrez, ne vont pas vous dépayser par rapport à ce que vous avez vu les deux années précédentes. Alors reprenons les trois stades de l'enseignement du grammatistes, du maître d'école élémentaire, à savoir l'apprentissage des lettres, l'apprentissage des syllabes et l'apprentissage des mots. Alors commençons par le début. Qui dit école dit évidemment abécédaire. On ne s'étonnera pas d'en trouver un certain nombre d'exemplaires, complets ou partiels, à Deir el-Baharit. Je vous en ai mis cinq, mais il y en a d'autres. Un seul comprend aussi l'alphabet copte, les autres étant soit fragmentaires, soit donnant une séquence volontairement partielle. Vous voyez ici, c'est la dernière, donc vous avez les lettres, l'alphabet réparti en quatre colonnes, de alpha à theta, qui est en lacune, ensuite de iota à pi, et aussi quasiment en lacune, et rho à oméga. Et ensuite, dans la dernière colonne, eh bien, vous avez ici les lettres coptes que j'ai mises en rouge. On notera que ces lettres ne suivent pas l'ordre adopté aujourd'hui dans les grammaires et les dictionnaires. L'ordre des grammaires et des dictionnaires, c'est Shai, Fai, Ori, Janja, Kima, Ti. Et là, vous voyez que c'est le contraire, c'est-à-dire que le kima est juste après le ori. C'est le contraire de l'ordre que nous adoptons aujourd'hui. Et pourtant, l'ordre de notre ostracone est celui qui est très majoritairement suivi dans les autres exercices scolaires de l'Antiquité. Et je vous ai fait une liste ici, et je ne l'illustrerai que par un seul exemple que vous connaissez bien maintenant, puisqu'il s'agit toujours de notre tablette de la Bibliothèque nationale de France, où vous voyez effectivement que l'ordre des lettres coptes suit exactement celui de l'ostracone que je vous ai montré. Alors je relève aussi dans cet ostracone que la lettre kima est très 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 penchée, et c'est un trait assez caractéristique, enfin c'est un trait que l'on retrouve dans les essais d'écriture de Chénétom. Alors nous avions vu aussi qu'avec les exercices grecs, en même temps qu'il apprend les lettres, l'écolier s'exerçait à écrire son nom, aptitude qui, je le répète, lui sera très utile dans sa vie d'adulte. C'est ce que nous avons avec cet ostracone, où il a d'abord écrit son nom Théodore, et ensuite il a commencé à écrire l'alphabet avec aussi les lettres à valeur numérale. Hein, la connaissance, évidemment, des chiffres était, elle aussi, capitale hein, dans la vie d'un individu. En plus de copier l'alphabet, l'élève était amené à s'exercer à écrire des lettres isolées, et le monastère de Saint-Paul a livré un très grand nombre de ces exercices. Alors, je ne vais pas les passer, enfin, je vais vite vous les montrer, hein, voyez. Ici, c'est des kappa, mu, là, il y a un nom, mais autrement, ce sont des lettres isolées. Là, c'est chai. Chai, c'est une lettre que l'on retrouve souvent dans les exercices d'écriture. Là, ce sont des eta. Ici, ce sont des lambda. Ici, ce sont des ori. Je pourrais vous en montrer d'autres. Hein. Bon. La plupart de ces exercices sont écrits dans une écriture très malhabile, comme on s'y attend d'un débutant. Mais certains sont mieux écrits et ne s'inscrivent pas à proprement parler dans la phase d'apprentissage des lettres. Hein, même lorsqu'il maîtrise son alphabet et la forme des lettres, eh bien, l'élève est amené à se délier la main en copiant des séries de lettres, comme un pianiste hein, qui expérimentait et qui continue tout au long de sa vie de faire des gammes. Ce pourrait être le cas de ce très curieux ostracone. Une personne a écrit la fin d'une lettre dans une écriture relativement maîtrisée, à ceci près qu'elle mêle des... Vous voyez, ce mu ici est en capital et celui-ci est en cursive. Enfin, ce n'est pas très grave. Alors, on reconnaît à la fin la formule typique d'une conclusion de lettres coptes. Hein, je salue dans le Seigneur. Et ensuite, notre élève a enchaîné sur un début de lettre. C'est moi, Cosmas, qui salue tous mes saints pères, sauf qu'en copte, on devrait dire « c'est moi, Cosmas, qui écrit et qui salue hein, », ça c'est la formule canonique d'une lettre copte. Il s'agit donc d'un exercice, vous voyez, de rédaction épistolaire, hein, comme on l'a vu faire avec Chénétome, sauf qu'ici, l'écriture est beaucoup plus ferme. Mais ce n'est pas tout. Le même élève a retourné l'ostracone, et a écrit à nouveau un début de lettre. Ici, c'est moi, Cosmas, qui écrit, et cette fois-ci, il a bien mis le verbe écrire, qui écrit et qui salue mon frère, mon saint frère. Et il a écrit un alphabet, ici, tout ça dans l'interligne. Il a écrit un alphabet, et il s'arrête à sigma. Et enfin, dans les rares parties qui sont laissées vierges, eh bien, il s'est exercé à écrire des lettres isolées de façon répétitive, par exemple alpha, 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 etc. Voilà, juste dans les parties, ici encore, alpha, alpha, alpha. La main laisse à penser que le scripteur, qui s'appellerait peut-être Cosmas, hein, puisqu'il utilise ce nom plusieurs fois dans la lettre, était déjà bien avancé dans la maîtrise de l'écriture et qu'il en est à faire des compositions sous la forme des lettres, ce qui ne l'empêche pas de revenir à l'alphabet et à des essais de lettres isolées comme un débutant. Si les exercices épistolaires de notre Cosmas reflète bien sa situation réelle, eh bien on aurait affaire à un moine du monastère, puisqu'il dit hein, dans les phrases qu'il utilise, c'est moi, Cosmas, qui écrit et salue mon saint frère. Donc on pense évidemment à un moine qui parle à un autre moine. Et donc on aurait peut-être affaire à quelqu'un qui est moine dans le monastère et qui apprend à composer dans le cadre d'un enseignement qui correspondrait de façon normative à celui que le grammaticos dispenserait dans une école classique. Alors, je veux dire que certains des ostracas de Der el-Bashit qui ont été considérés comme scolaires me laissent perplexe si on les rattache à un enseignement primaire ou secondaire. Par exemple, celui-là, vous voyez, c'est un ostracode qui conserve des essais de lettres, hein, des gammas, mais aussi d'autres lettres, dont la qualité calligraphique, la parfaite homogénéité du module, l'impeccable horizontalité des lignes me donnent à penser qu'on aurait affaire à des exercices d'un copiste professionnel ou d'un apprenti copiste, et nous nous retrouvons confrontés au sempiternel problème de l'interprétation de certains exercices en milieu monastique, hein, apprentissage de l'écriture ou formation de copiste, voire entraînement de copiste aguerri. C'est un problème que j'aurai l'occasion de traiter plus tard dans l'année. Alors, après les lettres, on passe aux syllabes. Le monastère de Deir el-Barit n'a livré aucun syllabaire. Il s'agit évidemment d'un hasard, puisque, comme nous l'avons vu la semaine dernière, l'enseignement copte a annexé cet exercice typique de la pédagogie grecque en le copticisant plus ou moins. Alors, d'autres établissements monastiques similaires à celui de Deir el-Barit ont laissé des témoignages de cet exercice. Alors, outre le syllabaire non copticisé de la tombe de Beni Hassan, hein, qui a servi d'habitation à une communauté d'ascètes, le monastère de Deir el-Gizaz, que vous voyez sur la carte, ici, nous a transmis un des meilleurs exemples de syllabaire incluant des lettres coptes. C'est un des syllabaires les plus complexes qui nous soit parvenu, puisqu'il comprend des séries de syllabes trilitaires constituées de deux façons différentes. Vous avez une lettre copte, puis ensuite alpha, et une lettre de l'alphabet grec à tour de rôle, alpha, bêta, gamma, delta, etc. Et puis le contraire, c'est-à-dire une lettre de l'alphabet grec à tour de rôle, puis alpha, et une lettre copte. Et puis vous avez une série de syllabes quadrilitaires qui sont constituées d'une lettre copte, puis ensuite une des lettres de l'alphabet grec à tour de rôle, ensuite alpha, et ensuite la même lettre copte qu'au début. Alors la seconde série est intéressante. Elle se démarque des exercices parallèles en grec. Le nombre de syllabaires quadrilitaires en grec est rare, et surtout, ceux qu'on a sont faussement quadrilitaires. En fait, il s'agit de syllabaires trilitaires du type bab, beb, bib, etc., qui sont élargis par l'insertion d'une liquide, c'est-à-dire d'un rho ou d'un lambda, hein, brab, breb, brib, etc., afin d'aboutir à des séquences correspondant à ce qui est possible en grec. Hein, breu ou bleu, c'est quelque chose qui est plausible dans la langue grecque. Le syllabaire de Deir el-Gizaz, lui, aboutit avec la seconde série, à des combinaisons complexes qui présentent un squelette consonantique totalement étranger à la morphologie du grec, mais adapté à celle du copte et donc susceptible de produire des combinaisons possibles. Alors, combinaisons qui, si elles ne sont évidemment pas toutes attestées en copte, par exemple, si je prends le début « j'bash », gâche, etc. Tout ça n'existe pas en copte. Et à plus forte raison, alors ça, j'aurais du mal à le prononcer. Chache, enfin bref. Donc si un certain nombre n'existe pas, ben vous en avez d'autres qui existent. Par exemple, chrash est un mot copte qui existe, hein, et qui signifie gerbe. Si, comme nous allons le voir bientôt, la syllabation du grec suit des principes très différents de ceux qui régissent la langue copte, eh bien, l'exercice a pu être récupéré par les maîtres coptes pour des combinaisons finalement plus adaptées au génie de la langue copte qu'à celui du grec. Raison de plus, évidemment, pour conserver cet exercice et l'adapter au copte en y intégrant ces lettres supplémentaires. Et cet exercice de syllabation sera pratiqué encore longtemps, hein, dans les milieux coptes, comme le montrent par exemple les restes de ce codex tardif, inédit, de la Chester Beatty Library, qui m'a été signalé pas plus tard qu'hier par mon collègue Aline Souchou, que je remercie aussi pour la photographie qu'il a bien voulu m'en procurer. Vous voyez ici des restes de syllabaires. Alors, passons au dernier stade. Souvenez-vous ce que disait Quintilien. Les syllabes elles-mêmes, une fois apprises, que l'élève commence à les grouper en mots. C'est le stade donc, où les élèves annonnent leur liste de mots classés dans un premier temps par nombre de syllabes et selon leur initiale. Alors, le Deir el-Bahrit n'a livré qu'un seul exercice de ce type que vous avez à l'écran, un bol sur la surface extérieure duquel, après avoir écrit en copte un extrait du psaume 5, l'élève a copié une série de mots tétrasyllabiques en lambda, commençant par lambda et mu. Alors je remercie Suzanne Audac de m'avoir envoyé les images de ce bol, images qui sont pour l'instant absentes hein, de son site, de sa base, COP2. Et grâce à ces images, je peux vous donner une édition de ces inscriptions. Alors, à l'intérieur du bol, donc on retourne l'ostracon, à l'intérieur du bol, le même élève a copié la même suite de mots sans qu'il soit possible de dire laquelle des deux faces a été écrite en premier. Alors là, par contre, l'écriture est parasitée par les décorations de la céramique. Alors, comme vous pouvez le constater, l'écriture est d'une extrême maladresse avec des confusions dans les lettres. Par exemple, ici, vous avez Margarites, hein, la perle en grec, qui est écrit Margarites, c'est-à-dire qu'il a confondu un iota et un rho. Mais on a aussi d'autres types d'erreurs, des erreurs plus graphiques, avec notamment des lettres qui sont, là encore, mal positionnées. Par exemple, le mot « logographos », ici, ce n'est pas un θ qu'il faut lire, contrairement à ce qu'on a pu penser, mais c'est bien un φ qui est mal orienté. Ici, par exemple, vous avez « Melchisedec », eh bien, il faut s'accrocher pour arriver à le lire, tellement les lettres sont branque-ballantes. Alors, on a dans ce texte quasiment, enfin, tous les mots de cette liste sont grecs, soit des noms communs, comme logographos, qui veut dire logographe, historien, marturion, martyr, margarites, perle, peut-être makarios, bienheureux, mais makarios est aussi un nom propre, donc je ne sais pas dans quelle catégorie le classer. Donc, soit des noms communs, soit des noms propres. Hein, vous avez Laodicus, de Laodicée, Léonides, Liberios, qui est à l'origine un nom latin passé en grec, Makarios, Melchisedec, Mathusala et Marcianos. Alors la coloration de ces noms est, comme on s'y attend, eu égard au contexte de provenance, c'est évidemment très fortement chrétienne. Hein. Les noms communs renvoient directement à des notions chrétiennes, Marturion, martyr, Makarios, bienheureux, ou sont présents dans les évangiles, Margarites, la perle, est présente, ou aussi chez les pères de l'Église. Par exemple, Logographos se retrouve chez les pères de l'Église, souvent d'ailleurs pris en mauvaise part. Les noms propres viennent de l'Ancien Testament, Melchisedec, Mathusalem, ou du Nouveau. Laodicus, par exemple, de Laodicée, est employé par Paul dans son épître aux Colossiens. Ou bien on a affaire à des noms propres qui sont portés par des saints du sanctoral copte, hein, le pape Liberius par exemple, Macaire est un nom qui a été porté par divers saints, ou bien Martien qui est soit le martyr, soit le moine. Seul Léonidas semble être un intrus et renvoyé évidemment à la culture classique pré-chrétienne. Mais il ne faudrait pas oublier que ce nom a été porté pas simplement par le célèbre roi de Sparte du 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, mais aussi par des saints chrétiens, notamment Léonide, martyrisé à Corinthe, avec ses sept compagnes, ou le père d'Origène, lui aussi martyrisé à Alexandrie. Ce qui peut expliquer que ce nom soit passé chez les chrétiens. Même si certains de ces noms ou de ces mots ont été empruntés par le copte, il n'y a ici aucun indice que cette liste ait vraiment servi à un enseignement du copte, si ce n'est ce qui précède, c'est-à-dire l'extrait du psaume 5 en copte. Le maître semble avoir donc réutilisé une liste grecque sans avoir cherché à la copticiser. Il est vrai que les listes de mots classés par nombre de syllabes sont assez rares en copte. Et les exemples qu'on en a sont souvent constitués de mots ou de noms exclusivement grecs. En dehors des deux cahiers dont nous parlerons la semaine prochaine, eh bien, un des rares exemples est livré par une tablette du musée copte que j'ai édité en 2004 et qui, à côté de tables de multiplication, donne deux séries de mots trisyllabiques en mu et en nu. Alors, chaque série aurait normalement dû se composer de sept mots de façon à ce que la première syllabe contienne à tour de rôle une des sept voyelles de l'alphabet grec. Alpha, epsilon, eta, iota, omicron, upsilon, oméga. Mais ici, le alpha est dupliqué et il manque le iota. La plupart des mots sont des mots propres, des noms propres bibliques dont l'orthographe, à une exception près, ne permet pas de dire s'ils sont transcrits en grec ou en copte. Quant aux autres, ce sont des noms communs qui sont empruntés au grec, Marmarole, le marbre, Monacos, le moine, Mécané, c'est la saquée, cette roue qui permet d'irriguer, Acates, l'agate, Nestia, le jeune, Nomos, la loi, Laïkos, le laïc. Et ce sont des mots qui sont bien attestés dans des documents, mais aussi dans des textes coptes, et notamment dans les traductions coptes de la Bible. Acates, l'agate, est un mot qui a été remployé directement dans la traduction copte de la Bible. On pourrait là encore hésiter donc sur le contexte copte de l'usage de ces mots, mais trois indices permettent de le confirmer. L'orthographe monokos pour le moine au lieu de monakos est typique de la forme qu'a ce mot grec dans la langue copte. Par ailleurs, le mot nomos, la loi, qui ne présente que deux syllabes, est complété par l'adjectif copte nim. Donc là, ça c'est bien du copte. Et enfin, les mots akates ou laikos sont préfixés respectivement par l'article pluriel et l'article démonstratif pluriel copte, même si le second est mal orthographié. Donc vous voyez que là, on a un essai de coptisation de ces mots. Alors j'en viens à l'exception dont je parlais, qui achève de prouver que ces deux listes ont été conçues dans le cadre d'un enseignement copte. Eh bien, la dernière ligne nous donne le nom de Noé, orthographié en copte, avec la lettre copte Ori, et accompagné du mot copte Penok, le grand, Noé le grand. Donc là, pas de problème, on est bien en copte. Donc on sent en fait que le maître ou son modèle a eu du mal à respecter les règles du jeu de départ, c'est-à-dire faire une liste de mots trisyllabiques, la première syllabe devant contenir toutes les voyelles à tour de rôle. Le second mot, melkei, n'est pas trisyllabique, mais disyllabique. Le sixième mot, nomos, est aussi disyllabique, et donc du coup, le maître a triché en lui ajoutant un adjectif monosyllabique. Et le dernier mot est en fait un nom suivi d'un adjectif. Enfin, un des mots est tellement défiguré qu'il est méconnaissable, c'est nemphuros. Alors le nombre d'infractions est tellement élevé, eu égard au petit nombre de mots de cette liste, qu'on peut se demander si l'exercice correctement mené ne relevait pas de la mission impossible pour des maîtres coptes. Alors là encore, la morphologie de la langue explique les difficultés qu'a rencontré notre enseignant pour adapter cet exercice grec au copte. Si le grec est une langue dont les mots sont constitués d'une ou plusieurs syllabes pourvues d'une voyelle, ce qui rend la constitution de ces listes assez aisée, eh bien, pour citer un grand spécialiste de la grammaire copte, une propriété remarquable de la formation des syllabes coptes égyptiennes est que non seulement chaque voyelle, mais aussi chaque consonne peut avoir une fonction syllabique. Et en effet, les consonnes peuvent, en copte, peuvent avoir une valeur syllabique en l'absence de voyelles. Et je vous mets deux exemples. Ici, vous avez deux consonnes, un ori et un nu, et pourtant, ça se prononce ren, avec une voyelle d'appui, qui est symbolisée ici par la petite surligne. Pareil ici. Aussi, le copte se coule-t-il très mal dans le moule de ces listes de mots dont chaque syllabe doit contenir une voyelle obligée. Dans ces conditions, on comprend que contrairement aux syllabaires, eh bien, les listes d'onomata classées par syllabes qui concluaient l'apprentissage de la lecture et de l'écriture en grec étaient plus difficilement adaptables à l'enseignement du copte et qu'elles ont donc été si peu nombreuses dans la documentation papyrologique, les maîtres ayant toujours la possibilité de se limiter aux listes de mots grecs. Alors, en vous présentant le dossier des textes scolaires du monastère de Saint-Paul, j'ai voulu non seulement attirer votre attention sur un ensemble de textes encore peu exploités, mais surtout vous rendre sensible aux différences qui peuvent exister au niveau primaire entre les méthodes employées par les maîtres coptes et celles que nous avons vues mises en pratique par les maîtres grecs. Alors certes, on retrouve les trois stades de l'apprentissage de l'écriture et de la lecture qui passent par les mêmes types d'exercices, hein, à l'exception, on a vu, des syllabaires absents à Deir el-Bahrit, mais nous avons vu que pour le troisième stade, recours aux listes de mots classés par nombre de syllabes est bien moins fréquent en copte du fait même de la phonologie et de la morphologie de cette langue. Il y eut malgré tout un effort des maîtres coptes pour adapter les syllabaires et les listes de noms aux coptes, mais cet effort fut très loin d'être systématique, si bien que les élèves ont dû souvent annoncer des syllabes et des mots qui n'étaient pas forcément les plus conformes, je dirais, au génie de leur langue. Mais au moins ont-ils été rendus sensibles à la nature de la syllabation du grec et à la morphologie des mots et des noms grecs qui constituaient pour une large part, voire exclusivement, les listes qu'on leur donnait à lire. Je le répète, dans un monde où le grec était la langue de référence, même s'ils n'étudiaient pas cette langue à fond, eh bien, la pratique de ces exercices leur en conférait une teinture qui n'était pas inutile pour la suite. C'était aussi une façon de les rendre attentifs à la multitude des mots grecs que leur langue avait absorbés et dont la maîtrise impliquait un minimum de connaissances de la morphologie grecque. La plus grande différence dans les méthodes pédagogiques qu'a relevé le dossier de Deir el-Bahrit est la quasi-absence de textes littéraires dans la phase d'apprentissage de l'écriture, tout autant que de la lecture. Chénéton apprend à écrire en recopiant une lettre, tandis que d'autres apprennent à rédiger en maniant des formules épistolaires. Certes, d'autres dossiers auraient fourni plus d'exemples de textes bibliques utilisés pour apprendre aux élèves à écrire, comme le codex tout à fait extraordinaire que je vous présenterai la semaine prochaine, mais aucun n'aurait montré une absence totale d'exercice épistolaire, tant on a affaire à un phénomène général qui témoigne d'un enseignement visant à s'ouvrir très tôt sur la vie professionnelle dans laquelle la lettre est le type documentaire par excellence. L'école grecque pouvait aussi s'ouvrir à des textes de la vie de tous les jours. On a quelques exemples de textes faits de lettres qui ont servi de modèle à l'école. Mais il eût été inconcevable qu'elle renonçât complètement aux beautés d'Homère ou à la morale de Ménon, dont la forme était presque aussi importante que le fond. Et cet empire du charme de l'expression, dans ce qu'elle a de plus formel, est un des traits saillants de l'hellénisme qu'il cherchera à préserver jusqu'à la fin. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.